l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.
Depuis maintenant plusieurs semaines, le parquet de Narbonne a saisi de grands nombres de plaintes pour des faits de harcèlement scolaire. Pour nous expliquer ce phénomène et savoir ce que peut faire la justice, je suis avec le procureur de Narbonne, Éric Camousse. Bonjour monsieur le procureur.
Oui, bonjour.
Quelles sont les premières constatations que vous pouvez faire concernant le harcèlement qui touche le Narbonnais ?
Alors, le fait est, c'est que nous sommes depuis plusieurs semaines saisis d'un grand nombre de signalements et de plaintes, en tout cas largement plus importants que ce à quoi nous étions jusqu'à présent confrontés, sachant que ce sont des plaintes parce qu'il y a toujours des victimes, mais cela vient aussi de l'éducation nationale, la direction académique, qui nous alerte sur des phénomènes de harcèlement dont elle a été saisie en interne par les chefs d'établissement au regard de ce que eux-mêmes ont pu constater. Les parents aussi nous signalent ces faits de harcèlement par l'intermédiaire des services de police, de gendarmerie ou par courrier ou même directement par mail adressé à sur notre adresse mail du tribunal judiciaire.
Quel est le profil des victimes qui sont touchées par ce harcèlement ?
Alors, avec toute la prudence qu'impose le recul dont nous disposons sur à la fois quelques semaines de cette augmentation que je décrivais et en même temps sur l'expérience acquise ces dernières années, c'est que justement, il n'y a pas de profil. En termes d'âge, tous les élèves, tous les étudiants sont touchés, que ce soit au collège où il nous semblait que c'était la période scolaire privilégiée, mais non, également au lycée et puis au primaire. Ce qui est apparu à travers les enquêtes qui ont été réalisées, c'est que les victimes sont des victimes fragiles, sont des personnes fragiles, mais il faut être prudent avec le terme de fragilité parce qu'on est tous fragiles de quelque chose. En revanche, nous sommes face à des personnes qui sont meurtries parce qu'elles ont subi et donc fragilisées, en réalité, qui sont dans l'incapacité de se défendre.
Comment s'effectue justement ce harcèlement ?
Il est protéiforme, dans le sens où il peut prendre plusieurs manifestations, parfois distinctes, parfois cumulatives. Ce que nous constatons, c'est d'abord des actes de répétition. Ça, c'est une vraie réalité, parce que déjà la définition juridique du harcèlement implique une répétition. Mais surtout, et c'est ce qui nous alerte vraiment, c'est que ce harcèlement s'intègre dans un mode de communication. Que ce soit communication verbale, non verbale, et puis surtout l'utilisation quasi systématique des réseaux sociaux, d'Internet, avec, en ce qui concerne la victime, le fait de la scénariser, le fait de la pointer du doigt et surtout de la dénigrer. Et ce qui nous interpelle, c'est que le dénigrement, c'est un peu devenu le mode de communication moderne de nos enfants. Est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que c'est un phénomène de société ? Intuitivement, on peut difficilement ne pas le raccrocher avec ce qu'on constate, mais ce qu'on constate à la télévision, ce qu'on constate dans la scène sociale à laquelle nous sommes généralement confrontés, où on voit bien que ce qui importe n'est pas de construire le discours, mais plutôt de pointer du doigt, de montrer que l'autre a tort, de lui couper la parole, de finalement montrer que il n'y a pas de vérité, ou sinon, s'il y a une vérité, c'est celle du harceleur et pas celle du harcelé.
Le harcèlement s'effectue également en dehors de l'établissement scolaire ?
Alors oui, il y a le harcèlement scolaire qui interpelle tout le monde parce que les enfants à l'intérieur d'un établissement scolaire doivent impérativement se sentir en sécurité. On voit bien que en ce qui concerne les victimes et les auteurs, on est sur quelque chose de répétitif qui se déroule en établissement scolaire, mais surtout hors de l'établissement scolaire. Et c'est ça que nos concitoyens doivent entendre, c'est que ça renvoie quand même, au-delà de tout, à une problématique éducative. Le nombre de harcèlements qui nous sont signalés dans les bus, le nombre de harcèlements qui nous sont signalés en congé, pendant les grandes vacances, ou pendant le week-end, où finalement certains élèves se déchaînent, et j'emploie vraiment ce mot à dessein parce que c'est celui qui nous est apparu, ils se déchaînent par les réseaux sociaux, et c'est de la répétition permanente de termes, d'insultes, de menaces, et dont on ne comprend pas le sens en fait. Sinon, de trouver finalement quelqu'un sur qui déverser, parfois vomir une espèce de haine de tout. Et lorsque les harceleurs sont interpellés, lorsque vraiment on les confronte à ce qu'ils ont écrit, à ce qu'ils ont dit, là, on est face à des enfants ou des adolescents qui n'avaient absolument pas pris la mesure de la gravité de ce qu'ils commettaient. Et pris individuellement, tout d'un coup, le discours change totalement. Le problème, c'est que c'est trop tard. Mmh. Le harcèlement a eu lieu avec toutes les conséquences que vous savez.
C'est ça. Et donc là, vous avez évoqué brièvement les auteurs. Donc, ce sont des jeunes, des adolescents. Concernant le volet des victimes, les victimes de ces harcèlements, comment sont-elles prises en charge, hein?
Alors, sur Narbonne, nous avons créé un parcours victime qui est la résultante d'un certain nombre de projets qui ont abouti, qui renvoie d'une part à la création de l'unité de médecine légale qui maintenant se trouve en face de l'hôpital de Narbonne, la création de l'UAPED, de l'unité d'accueil pédiatrique enfants en danger, qui a été créée en février de cette année et qui est subventionnée par l'Agence régionale de santé. Également, les psychologues qui interviennent avec l'unité de médecine légale, l'association d'aide aux victimes dont nos concitoyens peuvent voir chaque année le bilan des actions réalisées puisque l'Assemblée générale de cette structure se tient au sein du Palais de justice. Et également les experts psychologues que nous sollicitons, notamment un en particulier qui est sur le ressort, qui fait que chacun intervient dans un véritable parcours où la victime est prise en charge par l'infirmier, par le médecin légiste, ensuite par le psychologue de l'unité de médecine légale, ensuite par l'association d'aide aux victimes, ensuite par le psychologue de l'association d'aide aux victimes et après par le médecin psychologue. L'important, c'est que la personne qui a été victime, surtout quand elle est mineure, surtout quand on est face à un enfant ou un adolescent qui en plus est en grande souffrance, c'est déjà de s'approprier sa propre douleur et s'approprier ce qui lui est arrivé. Et donc l'idée, c'est qu'il répète à des acteurs différents ce qu'il a subi. Déjà, il met des mots. Quand on met des mots sur quelque chose, on se l'approprie. Et comme on se l'approprie, on le dépose. Ça ne vous brûle plus à l'intérieur parce que vous avez mis des mots dessus. Et lorsque les services de police interviennent, eh bien, de cette façon, ils ont un discours fluide et surtout réaliste et complet de ce que un enfant a pu subir plutôt que une intervention immédiate des services de police avec un dépôt de plainte où la personne est parfois figée devant l'enquêteur à ne pas savoir quel mot employer pour décrire ce qu'elle a subi. Donc ça, pour nous, c'est vraiment essentiel parce que ça marque véritablement d'une part, en tant que procureur de la République, eh bien, tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité, mais plus encore, ce qui est utile à la réparation de la victime.
Enfin, pour terminer cette interview, monsieur le procureur, sur le volet juridique, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le harcèlement est caractérisé aux yeux de la loi ?
Alors, il faut comprendre d'abord et avant tout que l'infraction, en tant que telle, réprime une intention. La loi est là pour punir une personne. À travers cette personne, les actes qu'elle a commis. Donc il faut que ces actes en question soient révélateurs chez cette personne d'une véritable intention de nuire. Or, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est que très souvent, le harcèlement, c'est 3-4 personnes qui, collectivement, vont en effet commettre des faits de harcèlement parce que ça va être reçu comme cela par la victime, mais individuellement, vont envoyer un, voire deux messages, c'est tout. Mais en même temps, ces deux messages plus deux messages plus deux messages, ça forme une espèce de chaîne continue, une sorte de train infernal où on rajoute à chaque fois des wagons qui alourdissent un peu plus la charge émotionnelle de la victime, qui à la fin a le sentiment que tout le monde lui en veut, alors que en réalité on est plutôt sur une sorte de passage de relais virtuel, sans que collectivement les harceleurs se soient véritablement rendus compte des dégâts qu'ils commettaient. Et ça, on le voit très bien quand ils sont entendus, voire quand ils sont interpellés, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Mais non, j'ai pas harcelé, j'ai juste envoyé un message. Oui, c'est vrai, le message était méchant, mais c'est pas du harcèlement. Oui, sauf que vous êtes 15 à l'avoir fait. Mmh. Et notamment, on a sur un dossier, alors c'est pas ici à Narbonne, mais parce que nous avons des études, donc nous travaillons dessus, notamment un dossier d'un élève qui s'était suicidé dans le centre de la France. Et quand l'enquête a été terminée, on s'est rendu compte que ce pauvre adolescent était en effet victime d'une répétition d'actes, mais pris individuellement. Mmh. Et ça, eh bien, juridiquement, c'est pas du harcèlement parce que celui qui envoie un message voire deux messages qui, en tant que tels, sont parfois à la limite. Mais c'est la répétition qui crée véritablement l'emprise sur la victime. Eh bien, on peut difficilement les faire juger. Et puis, une dernière chose qui est quand même essentielle. On parle d'adolescents, on parle d'enfants. Il faut être bien clair avec ça. Alors, j'ai entendu notamment le reportage lorsque Christophe Willem s'était finalement exposé en racontant ce que lui avait subi, à quel point ça avait été terrible pour lui. Et ça, vraiment, il faut l'entendre. Il s'est exprimé en disant « Oui, allez, interpeller quelqu'un en pleine classe, les menottes au poignet, ben au moins, ça montre à tout le monde. » Je ne suis pas du tout convaincu par cette méthode. D'abord, moi, ça me choque parce que je m'imagine parents d'élèves, des autres enfants qui sont dans cette classe, qui voient un de leurs camarades à qui on passe les menottes au poignet. Alors, si tous les parents nous disent « Ah ben, c'est tant mieux, ça sert d'exemple », je crois qu'il faut tous, collectivement, réfléchir aux valeurs que nous donnons à nos enfants aujourd'hui pour se féliciter d'un acte pareil. Le premier rempart contre le harcèlement, c'est quand même l'instruction, l'éducation que les parents donnent à leurs enfants. Mais au-delà de ça, il y a tout un travail d'écoute, d'accompagnement à mener et que mène l'éducation nationale parce que, bien évidemment, après cette dramatique tragédie qui s'est passée sur le ressort de Versailles, tout le monde a pointé du doigt cette lettre terrible qui avait été envoyée par le rectorat. Mais il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Ce sont des centaines et des milliers de professionnels qui, tous les jours, travaillent en classe sur le harcèlement, ne serait-ce que apprendre à nos enfants à vivre en collectivité, à ne pas se couper la parole, à finalement tolérer la vie contraire, à accepter l'autre. Les principes, c'est quand même liberté, égalité et puis fraternité. Mmh. On va pas fracasser sur l'autel de la répression et d'une répression qui pourrait être aveugle ce qu'est le sens de la fraternité et surtout le sens du bien vivre ensemble. Donc je crois qu'il faut raison garder et puis quelque part faire confiance à nos institutions.
Merci Éric Camus, procureur de la République de Narbonne, d'être venu dans le studio de Grand Sud FM pour nous parler du harcèlement scolaire et puis également du parcours qui est mis en place pour les victimes. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.